Vous écoutez, on lit pour vous.
La révolution féminine en marche. Un texte de Maud Goyer, paru le 27 février 2025 dans La Presse. Protéger le public et trouver des solutions. Ce sont les deux principales motivations des ingénieurs, peu importe leur domaine d'expertise. Si certains secteurs de l'ingénierie ont le vent dans les voiles, une tendance claire émerge. Les femmes sont en train de se tailler une belle place en génie. Entre 1989, année de la tuerie de Polytechnique, et maintenant, le nombre de femmes membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec a bondi. Elles sont 8 fois plus nombreuses, ayant passé de 1 200 à 10 000. Et les femmes représentent 30% des inscriptions à Polytechnique, souligne Sophie Larivière-Manta, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, OIQ. Avec des femmes ingénieures à la tête d'établissements importants au Québec, comme Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval, une première depuis 1852, et Maud Cohen, directrice générale de Polytechnique, et Cathy Begg, directrice générale de l'École de technologie supérieure, ETS, les modèles inspirants se multiplient. Plus présentes dans certains secteurs de l'ingénierie, comme le génie biomédical, environnemental et alimentaire, les femmes sont encore peu nombreuses en génie chimique, électrique ou mécanique. Aussi, elles sont surreprésentées dans les firmes de génie conseil. Justine Brodeur a choisi la branche de l'ingénierie chimique après un détour en enseignement au primaire sur les bancs d'école. « J'avais beaucoup d'expérience en camp de jour, dit-elle. J'ai toujours aimé les enfants. Mais il me manquait l'aspect de la curiosité intellectuelle. » Transformer et gérer. Elle a repris son parcours en terminant ses cours de sciences pour entrer en génie chimique à Polytechnique. Pourquoi le génie chimique? Il y a une dimension de procédé que j'aime, dit la femme de 34 ans, originaire de Trois-Rivières. Tu es dans ton laboratoire. Tu crées des recettes, mais à grande échelle. Tu transformes, tu conceptualises. C'est stimulant. Depuis 10 ans, Mme Brodeur travaille chez Pratt & Whitney, Canada. Depuis 2 ans, elle est affectée au service de la gestion des liquides et métaux et depuis 4 mois, elle est la superviseure. Elle gère une équipe de 25 personnes, toutes des hommes. Elle est aussi la seule femme parmi ses 8 homologues masculins et son patron est un homme aussi. La clé, c'est d'agir avec confiance et de traiter les choses qui ne fonctionnent pas au fur et à mesure, indique-t-elle. Des obstacles, j'en ai rencontré. J'apprends. Les petits commentaires plates, je ne les laisse pas passer. Domaine d'avenir. Justine Brodeur prêche par l'exemple et s'appuie sur son expérience. Rigueur, discipline, écoute et intelligence émotionnelle sont les bases de son style de leadership. Peu à peu, on réussit à se bâtir une réputation. Les gens me connaissent. Je me fie à mes connaissances et à ma capacité à continuer d'apprendre. Aussi, faire de l'introspection, c'est important. La diversité des équipes est une force. Ce n'est pas différent en ingénierie. Selon la grande patronne de l'OIQ, Sophie Larivière-Manta, il y aura une demande particulièrement forte dans certains secteurs au cours des prochaines années. Le génie chimique, électrique, informatique, aérospatial, par exemple. L'intelligence artificielle est aussi un domaine où il y a beaucoup de mouvements, affirme-t-elle. Avec la transition énergétique et les changements climatiques, il y a un grand besoin d'adapter nos infrastructures. Analytique et cartésien. Quant au profil type des ingénieurs, il n'y en a pas. Certaines caractéristiques peuvent toutefois être dégagées comme un goût prononcé pour l'analyse, le pragmatisme, le rationnel. Ce sont souvent des gens terre-à-terre et collaboratifs, dit Mme Larivière-Manta. Comme ingénieur, on a beaucoup d'interactions avec les autres. On ne travaille pas en silo. on travaille avec plusieurs autres personnes de corps de métier différents. Qu'ils soient plus versés dans la technique, la gestion de projet, la conception, la vulgarisation, les affaires publiques, la vente, les ingénieurs sont partout. Sophie Larivière-Manta cite en exemple une ingénieure mécanique qui avait un amour pour les arts de la scène. Elle est devenue une spécialiste des appareils de retenue utilisés par les artistes, un poste unique en son genre. On peut penser à n'importe quel domaine et il y a du génie derrière. C'était « La révolution féminine en marche », un texte de Maude Goyer paru le 27 février 2025 dans La Presse.
L'Australie envisage d'évacuer les îles Coco face à la montée des eaux. Un texte de l'agence France Presse paru le 11 février 2025 dans Le Devoir. Le gouvernement australien a proposé de déplacer des centaines d'habitants des îles Coco dans les décennies à venir en raison de la montée des eaux, un projet qui suscite l'indignation des résidents. Les îles Coco, territoire de l'océan Indien rattaché à l'Australie, sont menacés par l'érosion des côtes et la montée des eaux provoquée par le changement climatique. Ce groupe de 27 petits atolls situés à quelque 2900 km de la côte ouest de l'Australie culmine à seulement 5 mètres d'altitude environ. Parmi les 600 habitants figurent de nombreux descendants de travailleurs malaisiens amenés sur les îles pour travailler dans les plantations de noix de coco dans les années 1830. Les Britanniques ont colonisé ces îles en 1857 avant que la souveraineté sur le territoire ne soit transférée à l'Australie en 1955. La proposition, qui émane du gouvernement fédéral, a été rendue publique en janvier et suggère que les résidents et les équipements comme les centrales électriques, les routes et les commerces soient déménagés dans les 10 à 50 prochaines années. Cette retraite gérée sur le long terme est l'option la plus viable pour protéger les vies d'une manière socialement, économiquement et écologiquement respectueuse, écrit le rapport, sans préciser le lieu où seraient déplacées ces populations. Selon les projections du gouvernement, le niveau des eaux pourrait monter de 18 cm en 2030 sur les îles Coco, comparé au niveau de 1992. Pas une décision à prendre à la légère. Frank Mills, le directeur général du comté des îles Coco, a indiqué être déçu que le gouvernement n'envisage pas des stratégies à long terme qui permettraient aux personnes de rester définitivement sur l'île. Il n'exclut pas des recours légaux pour contrer le gouvernement. De nombreux habitants vivent sur les îles Coco depuis 3 à 5 générations et la décision de partir ne sera pas facile pour eux, explique M. Mills. Où irait-il? Des générations entières sont enterrées sur l'île. Serait-elle déplacée dans un endroit approprié sur le continent australien? Se questionne Frank Mills. Un porte-parole du gouvernement a assuré que la proposition n'avait pas encore été finalisée et que la communauté serait consultée. Les îles Coco font partie des nombreuses nations insulaires de faible altitude contraintes de réfléchir à leur avenir. En 2024, l'Australie, un pays gros émetteur de gaz à effet de serre, a conclu un traité historique avec les Tuvalu, un micro-État du Pacifique, proposant à ses habitants de vivre en Australie si la montée des eaux submergeait leur pays d'origine. Les îles Fidji ont d'ores et déjà transféré des populations sur des terrains plus élevés depuis 2014. L'Australie devrait faire tout son possible pour que les gens qui vivent sur ces îles depuis plusieurs générations puissent y rester et y maintenir leur culture, a déclaré M. Morgan. Ce qui inclut, souligne-t-il, de réduire ses émissions et de sortir du gaz et du charbon, dont le pays est un des principaux exportateurs mondiaux. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a déterminé avec un degré élevé de certitude que la hausse moyenne du niveau des mers augmentait à des rythmes inédits depuis au moins 3000 ans, sous l'influence du changement climatique induit par les activités humaines. C'était « L'Australie envisage d'évacuer les îles Coco face à la montée des eaux », un texte de l'agence France-Presse paru le 11 février 2025 dans Le Devoir.
Ajuster nos lunettes. Un texte de Marie-France Bazot, paru le 25 février 2025 dans La Presse. Il fallait bien que notre univers mental soit totalement happé par Donald Trump pour que les unes de nos médias, en ces temps d'hiver rudes, ne soient pas toutes occupées par les questions d'itinérance. Où vont les personnes sans abri pendant le blizzard? On commence à savoir où ils se tiennent. Dans les bibliothèques publiques le jour, les urgences d'hôpitaux le soir, dans le métro, jusqu'à l'heure où les employés les délogent. L'an dernier, 12 124 d'entre eux ont été raccompagnés à l'extérieur à la fermeture des stations. Le nombre d'itinérants augmente sans cesse. Les refuges croulent sous la demande. Femmes, jeunes, vieux, autochtones, nouveaux arrivants, le portrait s'élargit. Des campements surgissent même en hiver. Ils sont à Montréal dans à peu près tous les quartiers, mais aussi à Trois-Rivières, à Québec, à Baie-Saint-Paul, à Valcourt même. Parmi eux, on compte maintenant des travailleurs, des étudiants, des aînés. Beaucoup d'autres se trouvent dans l'antichambre de l'itinérance. Qu'est-ce qui les mène à la rue? Les problèmes de santé mentale. La crise du logement endémique, beaucoup sont à quelques dizaines de dollars de perdre leur toit. Les bouleversements du monde du travail, le filet social troué et bien sûr, les problèmes de dépendance, la crise du fentanyl et des opioïdes. Plus tu passes de temps en marge de la société, plus la réintégration est aléatoire. Notre regard sur l'itinérance s'est transformé et la terminologie pour décrire le phénomène tout autant. Jadis, dans les villages et les campagnes, il y avait les quêteux qui allaient de maison en maison. Les termes robineux et clochard évoquent déjà l'urbanisation et un jugement sur ces malheureux. Avec l'introduction tardive du sans-abri, on induit une dimension technique importante. Il n'a pas de toit à lui. On commence à identifier et à nommer la cause. L'utilisation du terme itinérant apporte un nouveau message. L'itinérance désigne l'alternance d'épisodes entre logement et rue. On réhumanise l'individu. Alors qu'avec personne en situation d'itinérance, même si on laisse entendre que l'itinérance n'est pas un destin, on sent la bureaucratie. Tout ce florilège de termes traduit notre gêne, notre malaise. Nous voulons être respectueux et en même temps, nous détournons le regard. Une multitude d'organismes entendent pallier l'essentiel, chacun avec ses idées sur la question, ses règles, son sous-financement. Des états généraux ont eu lieu en 2023, le sommet municipal sur l'itinérance qui a réuni 400 acteurs gouvernementaux, municipaux et communautaires. On y a établi que le coût de revient pour la société d'un sans-abri était de 72 521 $ par an et qu'un scénario d'intervention combinant action et prévention réduirait l'itinérance de 35 %. En ce moment, à Montréal, se tiennent des audiences publiques sur la question, avec des rencontres ciblées avec la Société de transport de Montréal, le service de police de la Ville de Montréal et des conversations citoyennes. Mais le problème reste entier. Notre économie est essoufflée, notre système social fuit de partout, les coûts explosent. Il n'y a pas si longtemps pourtant, le gouvernement nous a versé 1,7 milliard en réduction d'impôts. Alors, on rapièce, on va au plus urgent, on s'émeut devant les histoires crève-cœur, mais on revient toujours au point de départ. Empire. Pour enfin, comme société, mettre en place des solutions durables et efficaces, il faudrait admettre deux principes douloureux concernant l'itinérance. D'abord que la situation de l'itinérance est devenue une catastrophe humanitaire. Et ensuite que, malgré nos efforts, notre empathie, nos déclarations, nous ne viendrons pas à bout du problème. Ça va durer. Catastrophe humanitaire. Il faut la nommer en tant que telle, comme il y a des catastrophes naturelles qui imposent des interventions rapides et prioritaires. Il y a, avec l'itinérance, des situations ponctuelles de crise absolue. Les réponses gouvernementales prennent du temps. Elles se concentrent en amont, dans la nécessaire prévention. Le ministre responsable, Lionel Carman, est dans le métadiscours. On développe des projets de logements supervisés, c'est la voie prioritaire. Oui, c'est capital, mais il faut aussi des initiatives immédiates, des budgets débloqués rapidement, des solutions innovantes à déployer en urgence. Car c'est loin d'être fini. Malgré des efforts constants et les discours bienveillants, l'itinérance ne disparaîtra pas. Elle va continuer à se propager, touchant des gens encore épargnés. L'ascenseur social descend. D'ici 10 ans, avec les progrès de l'intelligence artificielle, des dizaines de milliers de jobs vont se perdre, et pas que dans le travail des cols blancs. Les conséquences pourraient être vertigineuses. On ne voit pas non plus de solution complète, ni proche ni lointaine, à la crise du logement. Il faut cesser de chercher des mesures temporaires. Le problème demeurera endémique. Il faudra s'interroger sur l'acceptabilité sociale qui, par exemple, empêche l'installation de projets de résidence pour utilisateurs de drogues dures dans les quartiers. Il faudra peut-être aussi tenter des solutions choquantes, comme envisager la pérennisation de villages de tentes dans les arrondissements. Les moyens d'offrir un toit à tous devront être pensés hors du cadre. À tous les étages, il va falloir modifier notre regard sur l'itinérance, prévenir et tolérer, affronter la crise humanitaire et travailler sur le long terme. Il va falloir être courageux. L'itinérance, c'est le fil de trame qui s'effiloche aux lisières de notre tissu social magané. C'était « Ajuster nos lunettes », un texte de Marie-France Bazot, paru le 25 février 2025 dans La Presse.
Brossard réclame le retour des autobus sur le pont Samuel de Champlain. Un texte de Jessica Corriveau, paru le 20 février 2025 dans Le Devoir. La mairesse de Brossard, Doreen Assad, demande que l'entente d'exclusivité accordée au Réseau Express Métropolitain, REM, pour l'accès au pont Samuel de Champlain, soit revue pour permettre le retour sur une base permanente des lignes d'autobus 45 et 90 entre sa ville et Montréal. L'élu réclame aussi la réouverture du stationnement incitatif Chevrier, fermé dans la foulée de l'entrée en service du train automatisé. Les pannes à répétition du REM dans les derniers jours ont fait grimper la frustration des usagers du REM. Des autobus supplémentaires sont déployés depuis jeudi matin en heure de pointe entre Brossard et la gare centrale pour assurer un service continu aux passagers, même lorsque les trains sont fonctionnels, mais cette mesure n'est pas suffisante aux yeux de Mme Assad. Il faut revoir l'exclusivité accordée au REM, a-t-elle indiqué par voie de communiqué jeudi. La priorité doit être donnée aux usagers et à la fiabilité du réseau, plutôt que de considérer les autobus comme une concurrence au REM. Nous devons les voir comme une solution complémentaire qui renforce l'offre de transport. En garantissant une double option, REM et autobus, nous sécurisons les déplacements et encourageons davantage de citoyens à utiliser les transports collectifs. Elle plaide non seulement pour le retour définitif des lignes d'autobus 45 et 90, abolies lorsque le REM a été inauguré en juillet 2023, mais aussi pour la réouverture du stationnement Chevrier. Elle demande aussi que le nombre de places de stationnement soit augmenté à la station Panama, compte tenu des besoins croissants. Les citoyennes et les citoyens de Brossard ont mis leur confiance dans le REM et ont adapté leur quotidien. Ils méritent un réseau fiable et efficace, pas une loterie quotidienne, pour arriver au travail ou rentrer à la maison, a-t-elle souligné. Rappelons qu'en vertu d'une entente intervenue en 2018 entre Québec, CDPQ Infra et l'Autorité régionale de transport métropolitain, cette dernière s'était engagée à ce qu'aucun transport collectif autre que le REM ne soit offert entre Montréal et la Rive-Sud dans l'axe du pont Samuel de Champlain. Le jeudi 20 février 2025, CDPQ Infra n'a pas voulu commenter les demandes formulées par la mairesse de Brossard. Notre priorité est toujours d'offrir un service de qualité à nos usagers. Les équipes sont concentrées à rétablir la situation de manière à offrir aux usagers le service auquel ils sont en droit de s'attendre, c'est-à-dire rapide et à haute fréquence, a indiqué l'organisation par courriel. C'était « Brossard réclame le retour des autobus sur le pont Samuel de Champlain », un texte de Jessica Corriveau, paru le 20 février 2025 dans Le Devoir.
Le droit des individus d'appartenir à une communauté ou une nation et le droit réciproque du peuple autochtone de déterminer son régime de citoyenneté, un texte de Geneviève Motard et Alexandre Picard, paru le 4 mai 2023 dans la revue Les Cahiers du Sierra. Ce texte examinera les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, DNUDPA, touchant l'appartenance à une communauté ou à un peuple autochtone. Le droit de définir la composition d'un groupe étant une expression du droit à l'autodétermination, nous explorerons de quelle manière se manifestent les différents processus menant à la définition du groupe et à la saisie de l'identité autochtone par le droit au Canada. Il est ainsi conclu que l'apport de la DNUDPA est de soutenir les efforts des peuples et communautés autochtones cherchant à redéfinir leur citoyenneté par les mécanismes de leur choix. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Article 9. Les autochtones, peuples et individus ont le droit d'appartenir à une communauté ou à une nation autochtone conformément aux traditions et coutumes de la communauté ou de la nation considérée. Aucune discrimination, quelle qu'elle soit, ne saurait résulter de l'exercice de ce droit. Article 33. 1. Les peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions, sans préjudice du droit des autochtones d'obtenir à titre individuel la citoyenneté de l'État dans lequel ils vivent. 2. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les structures de leurs institutions et d'en choisir les membres selon leurs propres procédures. Article 35. Les peuples autochtones ont le droit de déterminer les responsabilités des individus envers leur communauté. Article 36. 1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d'autre de frontières internationales, ont le droit d'entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres, ainsi qu'avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux. 2. Les États prennent en consultation et en coopération avec les peuples autochtones des mesures efficaces pour faciliter l'exercice de ce droit et en assurer l'application. Article 46. Ellipse. 2. Dans l'exercice des droits énoncés dans la présente déclaration, les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous sont respectés. L'exercice des droits énoncés dans la présente déclaration est soumis uniquement aux restrictions prévues par la loi et conforme aux obligations internationales relatives aux droits de l'homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement nécessaire à seule fin d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s'impose dans une société démocratique. 3. Les dispositions énoncées dans la présente déclaration seront interprétées conformément aux principes de justice, de démocratie, de respect des droits de l'homme, d'égalité, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi. Introduction. Le droit de définir la composition du groupe est vu, de manière unanime, comme une expression du droit à l'autodétermination. Ce processus de définition n'est pas simple. Il repose sur des vecteurs d'inclusion et d'exclusion des personnes, ne correspond pas toujours à l'identité vécue par les individus, ni aux développements qui ont eu cours dans les différentes sciences sociales, par exemple, quant au concept d'ethnicité ou de culture, ni aux traditions historiques, politiques ou culturelles des groupes, communautés ou nations, et de leurs relations, ni des rapports de pouvoir qui œuvrent au sein des groupes. Il n'en demeure pas moins central dans la DNUDPA, dans la mesure où il est au cœur des rapports et des faisceaux de relations entre les individus, mais aussi, bien sûr, entre ces derniers, les collectivités et leur rapport au monde. C'est un droit fondamentalement relationnel. Les dispositions de la DNUDPA sur les droits touchant à l'identité, à la citoyenneté ou à l'appartenance ont suscité, somme toute, assez peu de débats lors des étapes préliminaires à l'adoption de la DNUDPA par les États membres de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Par exemple, la distinction entre les termes « communauté » et « nation » que l'on trouve à l'article 9 a résulté en l'ajout des deux termes dans la version finale de la disposition. Ce débat sémantique portait davantage sur la représentation symbolique des termes. Ainsi, le terme « nation » suscitait l'opposition du fait de son rapprochement avec l'expression « État-nation », mais obtenait par ailleurs l'adhésion puisqu'il permettait de refléter la véritable nature des groupes autochtones comme société politique organisée et historiquement souveraine. Le recours au terme « peuple » plutôt que « communauté ou nation » à l'article 33 ne fait pas non plus l'objet d'explications. L'article 9 au cœur du droit à l'identité, soulève, selon Imé et Goun, les questions suivantes. Quelle est l'obligation de l'État de reconnaître un peuple comme étant autochtone? Quelle est l'obligation de l'État de reconnaître un individu comme étant autochtone? Quelle est l'obligation de l'État de reconnaître le droit d'appartenir à une nation? Quelle est la discrimination que doit éviter l'État? À ces questions, la DNUDPA amène à réfléchir sur la portée et les limites des droits des groupes et des individus autochtones de définir leur propre appartenance. Toujours selon ses auteurs, l'article 33 soulèverait quant à lui les questions suivantes. Quelles sont les différences entre les droits des peuples de déterminer leur identité et leurs règles d'appartenance? Quelles sont les limites applicables aux coutumes et traditions? Quels sont les rapports entre la citoyenneté de l'État et les identités et les appartenances des communautés, nations et peuples autochtones? Quels sont les droits des nations eu égard à la mise sur pied d'institutions? Lus de concert avec l'article 35, ces articles posent la question de savoir comment les différentes communautés et nations ou divers peuples se gouvernent-ils quant aux relations et aux responsabilités qui les unissent entre eux et avec le monde qui les entoure. L'article 36 poserait, enfin, les questions suivantes. Quels sont les contacts, relations ou liens de coopération qui permettent de mettre en œuvre les droits prévus à cet article? Quels sont, plus globalement, les mesures étatiques qui permettent de mettre en œuvre cette disposition? Ce ne sont là, bien entendu, que quelques-unes des questions que posent ces dispositions. Le présent texte a pour objectif d'amorcer une réflexion sur l'apport potentiel de la DNUDPA aux enjeux entourant le respect, la protection et la mise en œuvre du droit des peuples autochtones à leur propre identité. Il n'a pas pour ambition de répondre à toutes ces questions, mais plutôt de toucher à certaines d'entre elles, notamment à la lumière de l'expérience canadienne. Le texte n'a pas non plus pour objectif de vérifier la conformité des règles canadiennes ou des lois des différentes nations autochtones, ni de les comparer aux normes et standards internationaux. Pour amorcer cette réflexion, nous examinerons, tout d'abord, la question des obligations de reconnaissance de l'État quant aux groupes qui se déclarent autochtones. Nous présenterons ensuite quelques phénomènes contemporains ayant cours au Canada quant aux droits des premiers peuples à leur identité, et nous proposerons quelques réflexions sur les impacts potentiels de la DNUDPA sur les processus de réforme des citoyennetés autochtones au Canada. Vous écoutez « Le droit des individus d'appartenir à une communauté ou une nation et le droit réciproque du peuple autochtone de déterminer son régime de citoyenneté », un texte de Geneviève Motard et Alexandre Picard, paru le 4 mai 2023 dans la revue Les Cahiers du Sierra. L'autochtonéité et la reconnaissance étatique. Le mouvement contemporain de l'autochtonéité s'est développé et consolidé à l'échelle internationale à partir des années 1970, notamment dans la foulée de l'enquête du rapporteur spécial José Martinez Cobo, dont les conclusions furent publiées entre 1981 et 1984 dans un rapport intitulé « Étude du problème de la discrimination à l'encontre des populations autochtones ». Au-delà du mouvement politique, la définition de l'autochtonéité pose la question du statut des groupes et de leur reconnaissance par l'État. À cet égard, la DNUDPA pose l'auto-identification par une communauté ou une nation autochtone au cœur du processus. Cela dit, dans l'état actuel des discussions qui ont cours aux échelles régionales et internationales, ce sentiment ne constitue pas, à lui seul, le critère applicable entraînant une obligation de reconnaissance de l'autochtonéité d'un groupe. Dans une version préliminaire de la DNUDPA, l'article 8 reconnaissait expressément le principe de l'autodéfinition. Cette disposition a été retirée de la version finale à la demande des États. Aussi, bien que le droit international répugne à définir des critères exhaustifs de l'autochtonéité, ce sont les critères suivants, dont l'application dépend largement du contexte, qui sont généralement retenus à l'échelle internationale et qui fondent les obligations des États. Auto-identification, continuité historique avec une présence précoloniale, lien important au territoire, systèmes politiques, économiques et sociaux, culturels, linguistiques et spirituels distincts des systèmes dominants, groupes non dominants de la société, groupes étant résolus à maintenir et à reproduire leurs milieux environnementaux ancestraux en tant que société distinctive. Ces critères sont largement inspirés des travaux initiaux du rapporteur Kobo. On trouve d'ailleurs certains d'entre eux expressément mentionnés à l'article 1 de la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux de l'Organisation internationale du travail. 1. La présente convention s'applique à aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques, et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres, ou par une législation spéciale. B. Aux peuples, dans les pays indépendants, qui sont considérés comme indigènes, du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres, ou certaines d'entre elles. 2. Le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente convention. 3. L'emploi du terme « peuple » dans la présente convention ne peut en aucune manière être interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s'attacher à ce terme en vertu du droit international. Non exhaustifs, ces critères ont été ajustés au fil du temps à l'échelle des institutions régionales ou internationales pour tenir compte des situations particulières ayant lieu en Asie et en Afrique, où le critère de l'occupation précoloniale ne faisait pas sens. En Amérique latine, la reconnaissance de l'autochtonéité de peuples afro-descendants reflète un rajustement similaire. Au Canada, c'est l'interprétation donnée par la plus haute juridiction du terme « métis » employé à l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982, qui met en lumière un tel rajustement. Il faut souligner que les critères retenus par la Cour suprême du Canada ne font que partiellement écho à ceux développés à l'échelle internationale et qu'une précision de ces critères, s'ils étaient mieux alignés sur l'ordre international, pourrait éclairer la question métisse au Canada. Au Québec, les groupes qui déclarent une identité métisse ne font pas l'objet de reconnaissance par les tribunaux. Ils ne font pas non plus l'objet de reconnaissance par l'État ou par les Premières Nations et Inuits. Au Canada, la reconnaissance des groupes autochtones par l'État repose principalement sur les législations et politiques coloniales ainsi que sur la jurisprudence constitutionnelle. Ainsi, l'autochtonéité des groupes ayant été signataires de traités historiques ou d'autres formes d'accords avec la couronne, exemple accord de règlement des revendications territoriales globales, ou ayant été décrits comme des Indiens par les colonisateurs au moment du pacte fédératif, est reconnue. C'est le cas, par exemple, des différents groupes inuits. Les groupes, ayant historiquement été assujettis au cadre de la loi sur les Indiens, se voient aussi, de manière contemporaine, reconnaître comme des groupes autochtones. Pour tous ces groupes, l'État pourrait aujourd'hui difficilement nier leur autochtonéité sans contrevenir aux standards posés par la DNUDPA. Parallèlement, l'État ne peut, au terme de l'article 33, retirer ou refuser d'attribuer la nationalité à un individu vivant sur son territoire pour le motif de son appartenance à un groupe autochtone, par exemple, transfrontalier ou situé hors de la frontière internationale. Au contraire, l'État a même, en vertu de l'article 36, l'obligation de prendre des mesures effectives pour permettre aux groupes transfrontaliers de maintenir et de développer leur culture. Or, les différences d'approche adoptées par les États quant à la reconnaissance des groupes autochtones et quant aux différents critères identitaires qu'ils retiennent peuvent constituer des obstacles au maintien et au développement des cultures des groupes transfrontaliers. Ajoutons ici que ce droit n'est pas, en soi, novateur, puisqu'on en trouve un écho à l'article 32 de la Convention 169. Enfin, soulignons qu'aux yeux des instances onusiennes, la reconnaissance est un élément déterminant de la protection adéquate des droits fondamentaux des premiers peuples. Ainsi, le fait que certains États manquent de reconnaître les peuples autochtones aboutit à l'inadéquation de la protection juridique apportée à ces peuples et à leurs terres, et est à la fois une cause et une conséquence des déplacements. Même dans les pays qui donnent d'autres noms aux peuples autochtones, comme peuple des collines en Thaïlande, tribus ou minorités ethniques en Inde et au Bangladesh, ou petits peuples en Fédération de Russie, la non-reconnaissance des peuples autochtones restreint, voire compromet leurs droits, ce qui favorise les migrations. Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones. En clair, la reconnaissance de l'autochtonéité des groupes est une condition sine qua non de leur capacité de jouir de leurs droits fondamentaux. Cette absence de reconnaissance pose dès lors des enjeux majeurs pour ces groupes, comme c'est le cas dans nombre de pays africains où les États sont souvent réfractaires à toute forme de reconnaissance d'autochtonéité. Les enjeux entourant l'absence de reconnaissance étatique se posent aussi à divers degrés pour des groupes au Canada. Exemple, Inuit de la basse-côte nord et ailleurs dans le monde, exemple, Native Hawaiian. Le droit de l'individu d'appartenir à une communauté ou une nation et le droit des peuples de définir leurs identités et appartenances, retour sur l'expérience canadienne. Au Canada comme ailleurs, les politiques et pratiques coloniales ont eu pour conséquence de déconstruire les identités autochtones. Du point de vue collectif, les régimes législatifs mis en place au Canada dès le 19e siècle ont eu pour objectif de remplacer les systèmes d'appartenance traditionnels intimement liés aux systèmes de gouvernance et de responsabilité. En plus de mettre à mal les systèmes d'autorité, ces régimes législatifs et les critères d'appartenance qu'ils ont imposés avaient pour but affiché de réduire le nombre d'individus membres des communautés, contrairement aux standards aujourd'hui reconnus par l'article 9. Des individus ont ainsi perdu leur appartenance à leur communauté d'origine par suite d'événements et ou de pratiques coloniales fort agressives, déplacements ou adoptions forcées, système des pensionnats, migration vers les centres urbains, etc. Alors que d'autres individus ont carrément été exclus, en application des politiques législatives, de leur communauté d'origine. Au Canada, les cas de perte identitaire et culturelle vécus par les femmes autochtones mariées à des non-Indiens, de leurs enfants et de leurs descendants, sont connus et documentés. Il en va de même pour les processus de retrait des enfants autochtones de leur famille et de leur communauté, en application des politiques provinciales en matière de protection de la jeunesse. Enfin, certains individus ont perdu leur rattachement à leur communauté ou groupe national à la suite de l'application de codes ou de règles internes d'appartenance, des inscriptions. À ces phénomènes s'en ajoutent d'autres, à la fois concurrents et complémentaires, et qui touchent autant le droit des individus d'appartenir à un groupe autochtone que le droit des communautés ou des nations de définir leurs appartenances conformément à leurs coutumes, traditions, institutions et procédures. Nous présentons trois de ces phénomènes. Vous écoutez, le droit des individus d'appartenir à une communauté ou une nation et le droit réciproque du peuple autochtone de déterminer son régime de citoyenneté, un texte de Geneviève Motard et Alexandre Picard, paru le 4 mai 2023, dans la revue « Les cahiers du CIRA ». Le premier phénomène consiste, pour des individus, parfois regroupés en associations, à déclarer une identité autochtone de manière illégitime, en vue de se prévaloir de certains avantages, intérêts ou droits reconnus aux autochtones, en application de politiques visant à assurer l'égalité réelle des chances, emploi réservé, accès à des services culturels réservés, exercice de droits ancestraux ou issus de traités, etc., ou de bénéficier des retombées de programmes gouvernementaux ou autres. Ce phénomène soulève un ensemble d'enjeux sociaux complexes. Certains de ces enjeux concernent la reconnaissance des identités métisses au Canada. Il amène, entre autres, les institutions et organisations étatiques ou des Premières Nations, par exemple, à resserrer l'encadrement et dès lors les exigences juridiques liées à la preuve identitaire des individus. Dans ce contexte, la reprise de contrôle de la question identitaire et de leurs règles d'appartenance ou de citoyenneté par les groupes autochtones constitue aussi une mesure de protection contre les formes d'usurpation économique et d'appropriation culturelle. Le deuxième phénomène concerne la multiplicité des catégories identitaires découlant des traités et accords, de la législation et de la Constitution canadienne, ainsi que de leur interprétation jurisprudentielle, ou encore des codes de citoyenneté, ce qui complexifie la capacité des peuples, des nations et ou des communautés à se réapproprier leurs règles de citoyenneté conformément à leurs coutumes, traditions, institutions et procédures. À titre d'exemple, on doit relever les interprétations distinctes qui découlent des paragraphes 91 de la loi constitutionnelle de 1867 et 35 de la loi constitutionnelle de 1982 ou encore de la loi sur les Indiens, les distinctions entre bénéficiaires de droits issus d'accords de règlement des revendications territoriales globales, ARRTG, et les citoyens aptes à voter dans le cadre des institutions politiques mises en place à la suite de la signature de ces mêmes accords. Au-delà de la multiplicité de ces catégories qui ajoutent au défi des groupes autochtones à dépasser le cadre colonial, il semble difficile pour l'État canadien, au vu des récentes réformes de la loi sur les Indiens ou des récents ARRTG, et des limites qui y sont posées, de desserrer son emprise sur les identités autochtones. Cette volonté manifeste de l'État de maintenir une certaine mainmise sur les identités autochtones s'explique notamment par les ressources, par exemple budgétaires, qui sont ici en jeu. Le dernier phénomène s'appuie justement sur les efforts des communautés, nations et ou peuples eu égard à la réappropriation de leur propre citoyenneté de manière décolonisée, tout en assurant la légitimité et l'effectivité de ces politiques identitaires. Dans ce dernier cas, les enjeux démographiques, les défis liés à la non-reproduction de la discrimination résiduaire découlant du système colonial, la rareté des ressources et les initiatives des organisations régionales qui assurent notamment des services, exemple, Réseau des centres d'amitié, Commission de développement économique Première Nation Québec-Labrador, peuvent alimenter les réflexions des membres et des groupes autochtones qui s'investissent dans la réforme de leur citoyenneté. Pour ces trois situations, la DNUDPA doit être comprise comme un outil supplémentaire établissant de grands principes et des normes minimales guidant les États ainsi que les groupes et les individus autochtones sur la question des identités, des réformes de leur citoyenneté et de leur reconnaissance par les États. Le cas particulier de la réforme des régimes de citoyenneté par les nations et communautés autochtones, quel est l'apport de la DNUDPA au droit des peuples de définir leur appartenance? La DNUDPA pose deux principes complémentaires pouvant éclairer les processus de réforme des citoyennetés autochtones par les peuples autochtones. D'une part, ces derniers ont le droit fondamental de définir leurs identités selon leurs propres traditions, coutumes, institutions et procédures. Cela comprend notamment le droit de déterminer la composition de ces institutions. Cela signifie aussi que dans l'exercice de leurs droits, les groupes autochtones ont la capacité de porter atteinte, par loi, aux droits et libertés des uns en vue de respecter les droits d'autrui et dans la mesure où cela respecte les exigences propres aux sociétés démocratiques. D'autre part, ils ont aussi, en tant que société politique autonome et autodéterminée, le droit de définir les responsabilités rattachées à l'exercice de leur citoyenneté. Il s'agit sans aucun doute d'une des facettes du droit à l'autonomie prévu à l'article 4 de la DNUDPA. Les droits de déterminer l'appartenance au groupe et les responsabilités qui sont rattachées à cette appartenance sont cependant limités par le principe de non-discrimination duquel les groupes autochtones ne peuvent, suivant les normes internationales, déroger. Ainsi, l'article 44 rappelle que « tous les droits et libertés reconnus dans la présente déclaration sont garantis de la même façon à tous les autochtones, hommes et femmes ». L'article 46 affirme quant à lui le principe général suivant lequel « les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous » sont respectés. Si, au Canada, plusieurs moyens peuvent être utilisés pour redéfinir les citoyennetés et pour aller au-delà du statut conféré par la loi sur les Indiens, trois mécanismes semblent actuellement obtenir la faveur des différentes nations au Québec et au Canada. 1. L'adoption d'un code d'appartenance adopté conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi sur les Indiens. 2. La réforme de la citoyenneté menée dans les suites de la conclusion d'un ARRTG. Et 3. L'adoption d'un code d'appartenance ou de citoyenneté exo-étatique et autodéterminé. Ces mécanismes n'épuisent évidemment pas la richesse des relations qu'entretiennent les groupes, les individus et le monde matériel et spirituel qui les entoure. Dans tous ces cas de figure, les droits et libertés des individus, et en particulier l'égalité entre les genres, doivent, selon les termes de la DNUDPA, être respectés. et doivent orienter le choix des règles d'appartenance ou de citoyenneté, de même que la nature des institutions et des procédures. Cela peut, par exemple, avoir des conséquences sur les choix des critères d'appartenance ou de citoyenneté. Exemple, auto-identification de l'individu, réseau de parenté et parentalité, participation au réseau d'entraide, de réciprocité et de solidarité, participation à la culture commune, partage d'une langue commune, lieu de vie, sens du territoire. Sur les responsabilités que ces identités entraînent, mais aussi sur les enjeux qui entourent les identités multiples et ou changeantes et qui peuvent nécessiter de mettre en place des règles sur le cumul ou l'option entre des citoyennetés distinctes. À cet égard, soulignons que la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, adoptée en 2016 par l'Organisation des États américains, prévoit explicitement que les personnes et communautés autochtones ont le droit d'appartenir à un ou plusieurs peuples autochtones conformément à l'identité, aux traditions, aux coutumes et au système d'appartenance de chaque peuple. Aucune discrimination, quelle qu'elle soit, ne peut découler de l'exercice de ce droit. Les processus d'attribution de la citoyenneté et de révision, ainsi que les droits, les responsabilités et les obligations qui sont rattachées à cette citoyenneté, devront dès lors tenir compte de ces droits et libertés et du sens qui leur est donné par le groupe autochtone concerné dans le contexte qui lui est propre. Conclusion. En somme, la DNUDPA soutient les efforts des peuples autochtones qui cherchent à redéfinir leur citoyenneté par les mécanismes, institutions et procédures de leur choix, tout en rappelant que ces réformes doivent respecter les droits et libertés des individus, incluant le droit à l'égalité entre les genres. Cet exercice entraîne pour l'État et pour ses entités fédérales et fédérées l'obligation de soutenir les peuples et les communautés dans ces processus de réforme et de reconnaître les effets de ces citoyennetés ou de ces modalités d'appartenance conformément aux principes de justice, de bonne foi et de bonne gouvernance que rappelle la DNUDPA en vue de favoriser leur effectivité. C'était Le droit des individus d'appartenir à une communauté ou une nation et le droit réciproque du peuple autochtone de déterminer son régime de citoyenneté, un texte de Geneviève Motard et Alexandre Picard, paru le 4 mai 2023, dans la revue Les Cahiers du CIRA.